l'épreuve de la foi. Vous êtes attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Et quand on parle d'épreuves, on parle aussi de souffrances, de difficultés. Et Dieu permet que ses enfants souffrent parfois, et dans certains cas, assez longtemps. Pourtant, on a des promesses de guérison, de restauration, de délivrance, de bien-être. Jésus a dit qu'il nous condamne les verts pâturages, nous donne de l'eau vive, il a remporté les victoires à la croix pour nous. Il faut bien reconnaître que la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, une souffrance de l'âme, c'est une expérience qui parfois est un peu déroutante et nous reste perplexe. On prie, on implore le ciel, et parfois ça continue. Mais Dieu sait pourquoi, et heureusement, il a promis de ne pas nous laisser à nous-mêmes dans cela. Il n'y a pas de réponse toujours facile, évidemment. Et l'apôtre Pierre, voyez-vous, entrevoyait, il anticipait les choses du ciel, l'héritage à venir, mais il dit, pour un temps, vous êtes attristés par diverses épreuves. Pierre parle d'un héritage, d'une espérance certaine, un héritage qui ne peut ni se souiller, ni se corrompre, ne peut pas se perdre. Saviez-vous qu'il y a de l'amiante dans la Bible? Oui. Ni se souiller, c'est le mot amiantos, d'où le mot amiante. Et l'amiante, c'est pas dangereux, hein? En tout cas, pas dans la Bible. À quatre reprises, on trouve ça dans les Épîtres. Je vous dis ça en passant comme ça. Quand on prononce le mot « épreuve », généralement, ça résonne dans notre tête comme quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Parce que c'est synonyme de malheur, de souffrance, d'un côté imprévisible et sombre de la vie, de problèmes, de dérangements désagréables. Ça a une signification plutôt déplaisante. Quand quelqu'un vous parle et qui vous dit qu'il passe par une épreuve, est-ce que dans votre pensée, vous dites, « Oh, il est donc bien chanceux, j'aimerais tellement ça être à sa place. » Il y en a qui pensent comme ça? Non. Vous demandez, « Seigneur, éprouve-moi, s'il te plaît. » On ne fait pas ça non plus, hein? Ce n'est pas quelque chose qui nous attire vraiment, les épreuves. Mais si les épreuves avaient un côté plus bénéfique qu'on le pense, en fait, le mot latin pour épreuve, c'est probare, qui veut dire essayer ou tester. Et dans ce sens-là, il y a bien des choses qui sont essayées ou testées. Par exemple, il y a des épreuves de qualification dans les sports. Mettre à l'épreuve un nouveau procédé. Tester un nouvel appareil. Essayer un nouveau véhicule. Qui veut essayer un nouveau véhicule, tu sais? Tout le monde. Tester un nouveau médicament. Voyez-vous, le sens d'épreuve est positif parce que le but, c'est d'améliorer, de perfectionner. Et la marche avec Dieu, eh bien, parfois, le sens négatif de l'épreuve prend le dessus plutôt que le côté positif. Et on a besoin de réajuster notre perception des choses. Pierre dit, puisqu'il le faut, puisqu'il le faut. Donc, c'est comme, c'est incontournable. Tôt ou tard, il faut passer par une épreuve. Ça va arriver. Mais pour que notre foi grandisse, c'est ce qu'il dit ici. Il y a un avantage indéniable. La foi va devenir plus pure, comme l'or qui est éprouvé, plus précieuse. Et en fait, c'est bien ça qu'on va avoir, une foi plus pure, plus précieuse, plus grande. Parce que l'or, je ne sais pas combien ça vaut maintenant, dans les 1000 quelques dollars, tôt ou tard, ça va finir par se détériorer et se perdre. Alors que la foi, au contraire, elle peut grandir et s'améliorer. L'or a beaucoup de valeur sur les marchés du monde, mais la foi a une grande valeur à la bourse du ciel. Et tout ce qu'on a investi n'est jamais perdu. Ça ne perd pas sa valeur. Mais pour un temps, on peut être attristés, déprimés, et parfois ce temps-là nous paraît trop long. Mais Pierre dit encore, vous réjouissant d'une joie indescriptible et glorieuse. Pierre voyait le bon côté de la chose quand même. Vous réjouissez maintenant d'une joie, il n'y a même pas les mots pour la décrire, et glorieuse. Alors ça compense pour la tristesse et la souffrance qui est temporaire. Alors voyez-vous, on a besoin de mettre les choses en perspective. Et dans ce sens-là, Jacques a écrit ceci, au tout début de sa lettre. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Amen. Mais quand on lit la première ligne, là, comme un sujet de joie complète, là, c'est pas la première pensée qui nous vient. Pas pour vous autres, là, mais pour moi, en tout cas, ça me saute pas aux yeux. Jacques dit, regardez, considérez. Il parle de la perception des événements ou des choses. Et en réalité, la plupart des gens considèrent comme un sujet de joie complète d'échapper à l'épreuve. En vrai? Ça nous réjouit. Ah! On a eu un accident, mon épouse et moi, au mois de décembre. Merci Seigneur qu'on n'a pas été blessé. À part que mon doigt qui fait encore mal. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas guéri encore ce doigt-là. On est tellement content d'avoir été épargné des blessures. Mais pourtant, Jacques dit, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. En fait, le regard, c'est le sens qu'on donne aux événements et aux situations qui surviennent. Comment on les perçoit? Comment on les envisage? Alors, on peut chercher à les percevoir d'une façon différente que ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Faut pas se laisser aller à la dérive, à l'anxiété, au découragement quand surviennent les épreuves. Parfois, ça arrive, vous savez, c'est certain. Malgré que ça peut durer pour un certain temps. Jacques dit « regarder », ça veut dire considérer ou juger la situation d'un point de vue différent, du point de vue de Dieu. Quand les temps difficiles arrivent, là, les tempêtes de la vie s'abattent sur vous, là, c'est pas toujours évident d'entrevoir le dénouement heureux de la chose, n'est-ce pas? Ou de percevoir la bénédiction qui va en découler. Après, on s'en rend compte. Ah, oh, merci Seigneur. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas toujours. Et on réagit parfois comme les apôtres dans la barque. Seigneur, réveille-toi, Seigneur, on va périr, on va se noyer. Jésus était là. Mais ils ont paniqué. En fait, la souffrance contribue à notre perfectionnement. Qui veut être perfectionné ici? Êtes-vous prêt à souffrir? Ça fait partie. Ça va ensemble. Paul a écrit aux Romains ceci, c'est une parole que vous connaissez, qu'on a souvent déjà lue. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu a de l'ambition pour ses enfants. Il veut nous rendre conformes à Jésus. Ah, si les gens nous rencontraient, c'est comme s'ils rencontraient Jésus en personne. Hein? Mais c'est un peu ça. Dieu veut qu'on soit de ses témoins, qu'on reflète qui il est. Alors, tout contribue au bien. Les bonnes choses, comme les moins bonnes. On peut se dire, la difficulté qui m'arrive, je ne la comprends pas pour le moment, mais certainement, ça peut contribuer à mon bien tôt ou tard. Jacques nous invite, frères et sœurs, à laisser nos difficultés être transformées en moments d'apprentissage utile et même indispensable. Il parle de patience ou de persévérance, puis d'autres versions disent d'endurance. Alors, pas de s'endurcir, mais d'endurer, de tenir ferme dans cela. Il nous amène à regarder plus loin, au-delà de l'épreuve, en avant, dans l'après-crise. Parfois, quand on est dans une crise quelconque, alors là, c'est vraiment, on est tout bouleversé, mais Jacques nous amène à regarder au-delà de ça. Il veut susciter en nous un espoir. Un espoir que les circonstances vont changer. Tôt ou tard, ça va s'arranger. Un espoir que je vais guérir puis je vais être rétabli. Un espoir qu'il y a des jours meilleurs qui vont venir, malgré l'abattement et la peine du moment. Un espoir d'un dénouement heureux de ma situation présente, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan conjugal, familial ou autre. On traverse des moments de crise parfois. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Et il y a des circonstances qui sont permises par Dieu. On va traverser, mais c'est le temps de Dieu pour nous aussi. Pierre a dit pour un peu de temps. Dans la version anglaise, ça dit pour une saison. On a 4 saisons ici au Québec. Chacune a son utilité. Là, on est en hiver, on a peut-être hâte que ça finisse l'hiver, mais ça va arriver. Mais chaque saison a son utilité. Et Dieu nous appelle à regarder différemment. Je vais vous montrer une photo. Ce sont des jonquilles. C'était notre fenêtre du sous-sol à Rimouski. Les jonquilles étaient déjà bien sorties de terre au printemps. Elles étaient belles. Et voici qu'une neige printanière lourde s'abat sur les jonquilles. Et comme vous voyez, il y en a qui ont la tête penchée un peu parce que la neige, c'est lourd. Elle tenait ferme, nos jonquilles. En fait, je crois que la neige les a rendues plus fortes parce que le lendemain ou 2 jours après, le soleil est revenu, la neige a fondu et nos jonquilles étaient aussi éclatantes qu'avant. Frères et sœurs, laissez pas le poids des épreuves vous faire perdre votre éclat. Vous faire courber au point de ne plus se relever. Dieu nous aide et il nous aide à nous relever aussi, dans nos circonstances adverses. Une saison qui passe, une autre qui arrive. Portez un regard différent sur ce qui survient. On peut émerger plein d'espoir que les choses vont finir par s'arranger, que Dieu a un plan au travers de cela et que finalement on va grandir dans ça. Le psaume 66 est intéressant. Il nous a conservé la vie. Il n'a pas permis que notre pied trébuche. En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre terre. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Amen. Bien des choses difficiles, n'est-ce pas? L'eau, le feu, des hommes sur notre tête, un fardeau sur nos reins et tout cela, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Un auteur chrétien a écrit ceci. Les épreuves préparent souvent une personne ordinaire pour un destin extraordinaire. Qui veut un destin extraordinaire? N'est-ce pas? Alors, préparez-vous à traverser des moments turbulents. Comme dans les avions, il y a des turbulences des fois. Jacques a dit quoi? Afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et Jacques persiste et signe en écrivant encore ceci. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience à la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. La patience de Job. Persévérer sans colère. Oh, Job avait bien des choses à dire à Dieu, mais il ne comprenait pas et tout. On connaît sa situation. Mais persévérer sans révolte. Son épouse n'avait pas la même attitude. Maudit Dieu et meurt. Mais Job, non, pas réagi comme ça, heureusement. Et je crois que son épouse a dû se ressaisir par la suite aussi. Il avait vu la fin que le Seigneur leur a accordée. Mais ils ont traversé vraiment quelque chose de très difficile pendant un temps indéterminé. Mais à la fin, Job est un homme transformé. On a chanté ce matin. Un homme changé. Et au travers de cette épreuve, il a appris à redécouvrir Dieu. Merci Seigneur. Sa vie n'a jamais fini de connaître Dieu. C'est merveilleux. Avec Dieu, c'est sans fin. Il a redécouvert Dieu dans son temps d'épreuve. Il a même prié pour ses amis qui l'avaient blâmé parce que, oh, Job, c'est sûrement parce que tu as un péché dans ta vie, c'est pour ça que ça t'est arrivé. Dieu a dit, Job, prie pour tes amis. Il a même prié pour eux. Dieu l'a changé. J'ai lu une petite histoire récemment, je l'avais déjà lue, je l'ai relue. Je sais pas si elle est vraie, je l'ai trouvée intéressante. Voyez la photo suivante. Êtes-vous une carotte, un œuf ou du café? À vous de choisir. En fait, l'histoire dit ceci, c'est une jeune femme qui vient visiter sa mère et en rentrant à la maison, elle dit, maman, j'en peux plus. J'ai tellement de problèmes, quand j'arrête l'un, il en arrive un autre, ça n'a plus de faim, j'ai envie de tout lâcher. Elle était vraiment là, elle était à bout. Alors sa mère vient dans la cuisine, elle prend 3 casseroles, met de l'eau dedans, les met sur les ronds du poêle, allume les ronds et amène l'eau à ébullition. Elle prend une carotte, elle met une carotte dans une casserole, elle prend un œuf dans l'autre casserole, puis elle prend du café dans la 3e casserole. Et quand tout ça a bien cuit, elle enlève les casseroles du feu, elle sort la carotte. Et tu vois la carotte, là? Elle était bien dure quand on l'a mis dedans. Elle est tout ramollie. Elle prend l'œuf. Tu vois l'œuf, là? Si je casse la coquille, il est bien dur. Il était fluide, il a durci dans l'eau. L'eau avec le café, l'eau a pris la couleur du café. Et là, maman, qu'est-ce que tu veux me dire? Et elle dit, parfois dans l'épreuve, là, dans les difficultés, on ramollit puis on perd toutes nos capacités. Ou bien, on s'endurcit. Ah, c'est ça, Dieu? OK, d'abord. Puis on ferme notre cœur à l'amour de Dieu pour qu'on s'aide des amis. Ou bien, on devient comme du café, et non seulement l'eau a pris la couleur du café, mais a pris la saveur du café. Elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu choisis d'être? Une carotte, un œuf ou du café? En d'autres mots, on peut donner une saveur à nos circonstances. On peut être changé pour être meilleur. Moi, le matin, j'aime mieux prendre une tasse de café qu'une tasse d'eau chaude après mon déjeuner. Pas pour vous autres, là. Parce que le café, c'est bon. Au travers de nos circonstances difficiles, Dieu peut nous changer et faire en sorte qu'on ne se ramollisse pas, qu'on ne s'endurcisse pas, mais qu'on apporte quelque chose à la circonstance. Qu'on y soit changé pour le mieux. Êtes-vous convaincu que Dieu est plein de tendresse et de compassion? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ, dit Paul? Il m'aime plus que tout. Il faut s'en rappeler. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. On peut se sentir désemparé des fois. Notre foi peut faiblir même, dans certaines circonstances, mais Dieu est encore sur son trône. Amen. Il faut se rappeler de ça. La Bible dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. L'adversaire, le diable, peut chercher vraiment à te perturber, te troubler, à t'écraser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que je m'appuie sur Dieu, le rocher des siècles. Alléluia. Je suis en train de lire les psaumes de ce temps-ci. Et dernièrement, je suis arrivé au psaume 77. J'ai lu ceci. Je me dis, et c'était un conducteur de louange qui écrivait ça, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je n'ai pas mis tous les versets précédents, mais il parle beaucoup de toutes ces souffrances et ces difficultés. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? C'est le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple. Les descendants de Jacob et de Joseph. Il traversait des difficultés, et là, vraiment, il y avait des questionnements en lui. Il semble que Dieu n'est pas comme il était auparavant. Mais si je me rappelle auparavant, Dieu a fait des miracles. Est-ce que Dieu fait déjà des miracles dans votre vie? Oui, hein? Il peut en faire encore. C'est pas interdit de s'attendre encore à Dieu. Savoir que Dieu peut encore intervenir et réagir. Et c'est ce qui se rapporte ici. On peut s'identifier à lui. S'appeler des miracles du passé, dire « Seigneur, tu es le même. Tu n'as pas changé, m'appuie encore sur toi. » Dieu n'a pas promis de nous donner une vie sans douleur, sans difficulté. Il a promis d'être avec nous dans toutes nos difficultés, par exemple. D'être avec nous dans toutes nos circonstances. Nous aider à supporter et à tenir ferme. Et c'est exactement ce qu'on peut endurer, même si des fois, ça peut nous permettre un peu au-delà. Il sait ce qu'on peut endurer. Sa parole le dit. Le psaume 30 nous dit, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » C'est peut-être vrai dans votre vie. Le bonheur, ce n'est pas de vivre une vie exempte de souffrance et de peine, mais c'est manifester le fruit de l'esprit malgré la souffrance et la peine. Dieu veut produire en nous quelque chose, un fruit qui va être bon, qui va être agréable. Le psaume 84 nous dit encore ceci. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, dans certaines Bibles c'est la vallée de Baca, ça veut dire pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance, leur attente, leur espérance. Ils découvrent le chemin à suivre. Le chemin de la souffrance ou de l'épreuve, c'est pas une autoroute à quatre voies où on fait la grande vitesse. C'est souvent un chemin assez étroit et sinueux, avec des détours, avec des arrêts. Ça, c'est la vitesse voulue de Dieu, qui est nécessaire pour nous. Mais ce n'est pas un chemin sans issue, même si pour le moment on ne voit pas l'issue. Ou la lumière au bout du tunnel, comme on entend des fois. La vallée des pleurs. Les larmes peuvent être un remède efficace pour certaines personnes. De laisser notre cœur se déverser devant Dieu. Le trop plein de douleurs qui sont parfois enfouies profondément. Ça arrive, ça. C'est bon de ne pas se retenir. D'ailleurs, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, on est là pour être avec vous. Alors, la route de la souffrance est une route parsemée de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent à Dieu, devant Dieu, à Sion. Alors qu'ils se sentaient tellement accablés, plus ils avançaient finalement, on se rend compte, puis, ah, mais c'est Dieu qui m'aide. Et puis, tiens, je fais pas plus. Et finalement, ben, on arrive à destination parce que Dieu est avec nous dans ça. Nos forces spirituelles et émotionnelles sont renouvelées dans sa présence. En fait, si vous remarquez dans les évangiles, beaucoup de gens venaient à Jésus parce qu'ils souffraient. Soit dans leur corps, soit dans leur âme, ils venaient à Jésus. La souffrance est souvent une route qui nous amène aux pieds du Seigneur. Et tant mieux. Parce que quand tout va trop bien, c'est facile de prendre une distance. Mais quand ça commence à aller un peu plus difficile, Seigneur, comme j'ai besoin de toi. Et ça nous ramène au bon endroit, aux pieds de Jésus. Dans mes lectures des psaumes, je suis arrivé au psaume 80 et j'ai trouvé une parole qui est répétée trois fois. Ah, je disais, c'est intéressant, trois fois. Dans le même psaume, je voulais vous la lire. Il est dit ici, verset 4, oui. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Au verset 8, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Au verset 20, Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Relève-nous, ça veut dire rétablis-nous. Quand quelqu'un se relève d'une longue maladie, c'est qu'il se rétablit. Il est remis sur pied, la santé est revenue. Seigneur, relève-nous, relève-moi en tant qu'individu dans ma circonstance, relève-nous en tant que couple, en tant que famille, rétablis-nous, Seigneur. Et nous serons sauvés. Savez-vous que le mot « sauver », c'est un mot qui englobe non seulement le pardon des péchés, mais le bien-être de tout notre être, notre guérison entière, corps, âme et esprit. Le salut, c'est ça. Relève-nous, Seigneur, rétablis-nous, et nous serons sauvés. J'ai demandé aux musiciens de venir maintenant. Parce qu'il est dit, c'est le Dieu qui fait des miracles. Frères et sœurs, ce matin, au travers de vos souffrances, vos difficultés, votre tristesse, on peut s'attendre à Dieu encore. Relève-moi, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu n'es pas le Dieu du passé seulement, tu es le Dieu du présent. Tu es le Dieu qui peut intervenir miraculeusement, surnaturellement dans ma circonstance. Me fortifier, Seigneur. Libérer mes proches. Parfois, ce n'est pas nous-mêmes qui souffrons personnellement, mais quelqu'un de la famille qui souffre. Mais ça nous fait souffrir aussi. Et on a de la peine de cela. Ça nous donne un fardeau. Relève-nous, Seigneur. Frères et sœurs, peut-être que vous sentez aujourd'hui comme les jonquilles sous le poids de la neige. Vous courbez un peu la tête. Et que vous ne voyez pas le soleil parce que c'est encore la neige qui tombe. Mais la neige a une fin. Et le soleil revient. Et l'éclat revient aussi. Et pendant qu'on va chanter un chant ce matin, je vais vous inviter à vous approcher. Si vous êtes souffrant dans votre corps, approchez-vous. Jésus est le même. Il peut guérir encore aujourd'hui. Vous êtes souffrant dans votre âme, il y a des choses qui vous accablent, la dépression, quoi que ce soit, venez ici devant, on va prier. Si vous êtes souffrant dans votre couple, venez aussi devant. Vous savez, on n'est pas là pour juger les gens, pour savoir, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont? On est tous de la même nature. On a tous les mêmes luttes, les mêmes combats, les mêmes faiblesses. On a besoin de Dieu. Ou peut-être c'est quelqu'un de votre famille qui a besoin. Dans la Bible, on voit qu'il y a des gens qui s'approchaient pour quelqu'un d'autre. Que vous approchez pour quelqu'un d'autre, un proche. Et ensemble, on va prier et croire Dieu pour une guérison et un miracle. J'en viens, mon frère. Alors, pendant qu'on va chanter, approchez-vous si vous voulez. On va s'attendre à Dieu ce matin. Au travers de la difficulté, au travers de l'épreuve, Dieu est présent. Dieu règne encore. Dieu agit. Dieu vient intervenir dans notre vie. Parfois, nous changer nous-mêmes d'abord. Changer une attitude. Que notre cœur ne s'endurcisse pas, ou qu'on ne soit pas tout ramolli, mais qu'on tienne ferme dans le Seigneur. Que Dieu vraiment nous fortifie aujourd'hui. Pendant qu'on va chanter, venez si vous voulez. Et il y a des frères et sœurs qui vont se joindre à vous dans la prière. L'équipe de prière, venez prier avec ceux et celles qui sont là. On va croire au Seigneur pour un miracle aujourd'hui. Dieu peut changer des circonstances qui sont vraiment malheureuses, qui sont difficiles, en circonstances favorables. Et vous transformez au travers de cela. Il y a une victoire qui est disponible pour vous, frères et sœurs, sur les tentations, les choses qui vous font trébucher. Dieu est là encore aujourd'hui. Venez maintenant si vous voulez.